une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Stéphanie Bascou, journaliste à 01net.com. Salut Stéphanie.
Salut Emmanuel.
Dans cet épisode, tu vas nous parler de la révolution informatique, de justice économique et de l'atterrissage sur la Lune.
Exactement. Pour commencer, je voulais vous parler de Jérôme. Il est à la tête d'une petite société qui crée des sites web. Et pour lui, il y a vraiment eu un avant et un après ChatGPT. Vous savez, ce chatbot conversationnel capable de vous générer du texte et du code informatique si vous en faites la demande. Non seulement ça lui fait gagner du temps, mais ça lui fait aussi gagner de l'argent.
C'est génial!
Avant ChatGPT, Jérôme faisait appel à des fournisseurs de contenu pour créer ou enrichir ses sites web. Il explique qu'entre le moment où il formulait sa demande et le moment où il recevait un texte, 3 jours s'étaient écoulés. Aujourd'hui, il n'a plus du tout recours à ces sociétés. Il demande directement à ChatGPT d'écrire un texte sur un sujet spécifique. Il discute avec lui du plan, des parties à améliorer, lui demande d'utiliser tel mot-clé. Bref, il l'utilise comme si c'était un assistant. Sauf qu'en plus, cet assistant a une énorme base de connaissances à disposition. Il dit même:
tu lui dis ce que tu veux, puis tu travailles avec elle, l'IA, et au fur et à mesure, elle t'écrit d'autres choses. Si toi, t'as une bonne idée de ce que tu veux écrire, alors c'est incroyable. C'est un gain de temps incroyable.
Dans le pire des cas, écrire un texte pour un de ses sites web, ça lui prend maintenant 3 heures, pour une économie énorme. Il ne paie que 20 euros par mois. 20 euros, c'est le prix actuel d'un abonnement à la dernière version du modèle de ChatGPT. En plus, il doit régler quelques centimes s'il demande beaucoup de choses au chat conversationnel. Ces demandes qu'il formule sous forme de discussion avec le robot, on les appelle des prompts, des commandes. Et plus vous faites des prompts, plus ça va vous coûter quelques centimes. Jérôme m'explique aussi qu'il crée beaucoup plus de contenu qu'avant. Et quand je lui ai demandé de me chiffrer les économies faites entre sa vie avant et après ChatGPT, il m'a avancé le chiffre de 1000 euros par mois. 1000 euros d'économie. Alors c'est vrai que pour lui, la promesse de l'intelligence artificielle de faire gagner du temps et de l'argent, elle est tenue. Mais on voit aussi le revers de la médaille. Ces économies, elles sont prises en partie sur le budget qu'il avait pour les fournisseurs de contenu. Des sociétés qui se retrouvent avec beaucoup moins de clients qu'avant. Et si on élargit la focale et qu'on pèse le pour et le contre, les gains et les pertes, on va se demander dans cet épisode si l'intelligence artificielle apporte réellement à l'échelle de l'économie, des entreprises et des salariés un gain de productivité, un accroissement des richesses, voire un progrès. ChatGPT va-t-il nous faire gagner de la thune ? Pour commencer à répondre à cette question, je me suis demandé si dans l'histoire, le progrès technologique avait toujours rimé avec l'augmentation de richesses. J'ai posé la question à Yann Ferguson. Il est sociologue à l'ICAM de Toulouse et responsable scientifique du Labor IA. Labor comme travail en anglais et IA comme intelligence artificielle. C'est un programme de recherche-action mené par le ministère du Travail et l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique.
Alors, de manière générale, il y a toujours une corrélation assez forte entre l'innovation technologique et la production de richesses. Ça a été déjà théorisé dans l'économie, notamment par Schumpeter, et les cycles, l'utilisation qu'il avait de ce qu'on appelle les cycles congratifs, c'est-à-dire il montrait que les dynamiques de l'économie étaient associées à des grappes d'innovation et qui expliquaient qu'à certains moments, on avait des grands moments de croissance et de production de richesses. Et puis, à d'autres moments, lorsque tous les agents étaient équipés, eh bien, on a plutôt une chute de création de richesses qui va entraîner finalement la recherche de nouvelles innovations. Et cette recherche de nouvelles innovations eh bien, va redistribuer un peu les cartes entre les agents économiques et notamment les entreprises, celles qui vont tirer parti de ces innovations, celles qui sont plus en difficulté. Et à nouveau, on part vers un nouveau cycle.
Alors, Yann Ferguson fait ici référence aux travaux de l'économiste autrichien Joseph Schumpeter, qui a étudié ce qu'on appelle des cycles économiques.
C'est ça. Si on schématise la pensée de Schumpeter, à chaque fois qu'une innovation radicale apparaît, comme par exemple la machine à vapeur, l'innovation se diffuse dans toute l'économie et elle entraîne des investissements tous azimuts. On entre alors dans une phase d'expansion économique forte, de croissance qui ensuite finit par retomber. On parle alors de dépression. Jusqu'à ce qu'une nouvelle innovation innovations radicales apparaissent et qu'un nouveau cycle commence. Donc si on suit cette théorie, à chaque progrès technologique majeur, on a un accroissement des richesses. Mais si on regarde dans les détails, on comprend vite qu'il faut nuancer. Prenons l'une des dernières grandes révolutions technologiques, l'informatique. Malgré de grandes promesses, on a finalement eu des gains de productivité très réduits. En économie, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Solow, du nom de l'économiste Robert Solow.
C'est lui qui a dit en 1987, on voit des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité.
C'est bien lui. En gros, il dit que d'un côté, les entreprises ont mis des ordinateurs partout, mais de l'autre, ça n'a pas apporté des gains de productivité très forts.
Ça me sert à rien.
Alors on a essayé d'expliquer pourquoi, en disant que c'était peut-être parce que les entreprises, en intégrant l'informatique, n'ont pas repensé complètement leur organisation pour que l'informatique puisse réellement permettre aux sociétés d'être plus productives.
Alors justement pour l'IA, qui est considérée par beaucoup comme une technologie de rupture majeure, est-ce qu'on penche pour un accroissement de la productivité ou pour un impact moindre comme pour l'informatique ?
Si on prend les différentes études faites à partir de novembre 2022, qui est le mois du lancement de ChatGPT, on pencherait pour la première option. On a d'abord PwC, qui est l'une des plus grandes sociétés de conseil au monde, qui, dans une étude récente, montre que l'IA pourrait entraîner une augmentation de 14% du PIB de l'Amérique du Nord d'ici à 2030. Pour la Chine, l'IA permettrait d'augmenter son PIB de 26% d'ici à 2030. Et on a un deuxième rapport de Goldman Sachs qui estime que l'IA va permettre d'augmenter le PIB mondial de 7%. Les banquiers d'affaires écrivent, je cite, « Les économies de coûts de main-d'œuvre, la création de nouveaux emplois et l'augmentation de la productivité des travailleurs pourrait entraîner un boom de la productivité de la main-d'œuvre comme celui qui a suivi la révolution du moteur électrique. Cette croissance serait créée via trois leviers. L'automatisation des processus, l'augmentation de la demande des consommateurs pour de nouveaux produits et services améliorés par l'IA et les gains de productivité des salariés grâce à l'IA.
Ces rapports expliquent donc que l'IA augmenterait la productivité des employés. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça voudrait dire que grâce à l'IA, un salarié pourrait faire des choses plus rapidement ou se libérer du temps pour se consacrer à des activités plus intellectuelles ou à plus forte valeur ajoutée. Si je prends un exemple, au Japon, une municipalité près de Tokyo expérimente l'IA pendant un mois. Et l'objectif, c'est de voir si l'IA peut gérer à la place des fonctionnaires les comptes rendus de réunions, les relances et d'autres documents administratifs dont la rédaction nécessite beaucoup de temps. Le but, c'est que les agents puissent se consacrer à des activités comme recevoir plus souvent les administrés en chair et en os.
Alors, si on descend un peu plus et qu'on se place au niveau des entreprises, est-ce que l'IA pourrait leur permettre de faire des économies.
Alors, c'est la promesse de l'IA. On a par exemple Microsoft, qui a investi des milliards dans OpenAI, la start-up américaine qui a développé ChatGPT. Microsoft dit le 9 mai dernier dans un article de blog, on constate une baisse de la productivité des salariés depuis l'année dernière, notamment parce qu'ils seraient assaillis et épuisés par les notifications Slack, des réunions inutiles qui se multiplient, les réponses aux emails, le fait de ne pas pouvoir se concentrer plus de 2 minutes sans qu'une notification ne vienne les perturber. Cette baisse de productivité chez les travailleurs américains a d'ailleurs aussi été confirmée par une autre étude du cabinet EY Parthenon, qui s'appuie sur les données de l'INSEE américain. Et la solution, selon Microsoft...
Laisse-moi deviner, l'IA.
Bingo. Je cite Microsoft. « Les organisations qui adopteront l'IA libéreront la créativité et la productivité de chacun, entraînant une nouvelle vague de croissance de la productivité et de création de valeur. » Entre nous, c'est assez drôle que l'entreprise à l'origine de Teams, de Slack et d'une partie des instruments qui nous déconcentrent constamment disent « L'IA que nous développons va vous aider à vous libérer du fardeau numérique que vous subissez en ce moment grâce à nous. »
Quelle indignité.
Donc ça, c'est pour les promesses. Est-ce qu'il y a eu une étude de terrain qui montre que l'IA a réellement amélioré la productivité des salariés ?
Oui, Emmanuel. Il y a une toute première étude publiée en avril 2023 qui a été faite par 3 chercheurs de l'université de Stanford et du MIT. Ces scientifiques ont étudié pendant 1 an le service client d'une grande entreprise de logiciels américaine. Ils ont suivi les performances de plus de 5000 agents d'assistance à la clientèle. Et les chercheurs ont estimé qu'avec l'IA, les salariés avaient augmenté en moyenne leur productivité de 14%. Dans les détails, ils montrent que l'IA bénéficiait surtout aux employés débutants ou moins performants, et pas du tout aux bons éléments de l'entreprise. En gros, l'IA se servait des réponses des meilleurs employés pour aider les moins bons. Alors ok, il s'agit dans cette étude d'une entreprise particulière, un centre d'assistance à la clientèle, ce qui montre que pour ce type de société, l'IA peut être bénéfique. Mais ça ne signifie pas que ça vaut pour pour toutes les entreprises dans d'autres secteurs.
Mais certaines sociétés ne parlent pas que d'améliorer la productivité de leurs salariés.
C'est vrai, on a quelques entreprises qui sont très enthousiastes et qui assument de dire « je vais remplacer une partie de mes effectifs par de l'IA ». Ça me permettra de faire des économies puisque ce sont des salaires que je n'aurai plus à payer.
Ben ouais, logique.
L'IA serait alors un remplacement bon marché des travailleurs humains. Début mai, on a eu un exemple type de cette position, avec la société IBM qui a dit « Breaking news, je compte remplacer 30% de mes effectifs de bureau par de l'IA d'ici 2030, ce qui représente quand même près de 8000 personnes. » Mais tout ça part d'un présupposé. Ça voudrait dire que les postes en question sont automatisables, remplaçables par de l'IA. Mais quand on regarde ce que font vraiment les gens au boulot, on se rend compte que c'est très difficile de les enfermer dans un schéma d'automatisation simple. En fait, ils font beaucoup de choses et parfois ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Un exemple, Emmanuel. Est-ce que tu connais Watson, un programme qu'IBM a présenté comme révolutionnaire il y a quelques années?
Oui, c'est pas cette technologie capable de détecter des fractures en un rien de temps qui était censée remplacer les radiologues de A à Z?
C'est ça. On écoute Ian Ferguson nous parler de ce programme qui avait fait l'objet d'annonces incroyables.
On disait les radiologues, Watson est tellement fort pour interpréter une radio que demain, il n'y aura plus de radiologues. Mais en fait, ça, c'est le fruit d'un procédé extrêmement réductionniste qui consiste à réduire l'intelligence humaine à ce que sait faire une IA. Par exemple, quand on dit l'IA sait très bien détecter une fracture sur une radio, eh bien, on réduit l'intelligence du radiologue à cette activité-là. Or, il fait bien autre chose, même s'il n'en a pas forcément conscience. Et aujourd'hui, Watson, ça n'a pas marché. J'ai travaillé avec des très grandes entreprises qui ont testé Watson et qui m'ont dit « Watson a produit en gain de temps l'équivalent de 10 minutes pour les salariés sur lesquels on a expérimenté, c'est-à-dire finalement une pause café. On a gagné une pause café. »
Avec l'IA aujourd'hui, on cherche évidemment beaucoup plus que gagner une pause café. Et ChatGPT a suscité beaucoup plus d'espoir et d'engouement que Watson, on est d'accord. Ce chat conversationnel aurait déjà 200 millions d'utilisateurs, selon OpenAI. La frénésie est telle que tous les géants de la tech se sont mis à développer tous azimuts de l'IA générative. Après ChatGPT, on a eu le Bard de Google, Ernie de Baidu, Claude Anthropique, sans compter toutes les IA génératives d'images comme DALL-E, Midjourney, Stable AI et toutes les autres.
Ça fait beaucoup là, non?
D'autres entreprises développent aussi des interfaces d'IA spécialisées. On a vu naître en France le ChatGPT du climat, des ChatGPT du droit, et c'est que le début.
Pour avoir essayé ChatGPT en tant qu'utilisateur lambda, j'ai remarqué que je n'avais rien à payer. Est-ce que ce type de technologie est cher à développer? Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur le modèle économique de ces sociétés qui développent des IA génératives?
Alors pour l'instant, les entreprises qui développent ces chats conversationnels supportent les coûts. Ça veut dire que les utilisateurs ne paient pas ou peu l'utilisation de ChatGPT. On a même l'impression que c'est gratuit, un peu comme Internet. Alors qu'évidemment, développer une IA générative, ça nécessite énormément de données qu'elle va ingurgiter et digérer, donc ça coûte énormément en data, en capital, en puissance de calcul, en serveur, en électricité, ce qui a aussi un impact important sur l'environnement. Des investisseurs dans le Financial Times ont expliqué que les récents progrès de l'IA générative étaient comparables à l'atterrissage sur la Lune. C'est incroyable, impressionnant.
Putain, c'est génial.
Mais pour développer une telle technologie, il faut une richesse équivalente à celle d'un État surpuissant. Et cette quantité astronomique d'argent a été confirmée par Sam Altman, le patron d'OpenAI. Le PDG de 38 ans a dit que sa start-up allait devenir l'entreprise la plus gourmande en capital de l'histoire de la Silicon Valley. Alors évidemment, OpenAI n'est pas rentable aujourd'hui. Selon le média américain The Information, la société affichait une perte nette de 490 millions d'euros en 2022. Tous les jours, cette start-up perdrait 700 000 dollars, selon une estimation du cabinet Semi-Analysis. C'est colossal. Mais le pari fait par cette société, c'est d'être la première sur ce nouveau marché et c'est de rentrer dans les mœurs.
En économie, on parle de prime aux pionniers, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être le meilleur produit, mais être le premier, ça vous donne un avantage indéniable.
Exactement. Pour la suite, on écoute Ian Ferguson.
Il y a un modèle économique actuellement dans ces IA génératives, notamment ChatGPT, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une requête sur ChatGPT, ça coûte quelques centimes de dollars à OpenAI. Mais la balance bénéfice-risque qui sont envisagées est que, en fait, nous sommes tous en train de bêta-tester à peu de frais la solution d'OpenAI. ChatGPT-4 n'est pas la version industrielle. Ils savent bien qu'il y a des erreurs, mais ils vont utiliser les millions d'utilisateurs curieux comme vous et moi pour entraîner leur système gratuitement. C'est-à-dire que s'ils devaient payer des gens pour entraîner leur système, ça leur coûterait des millions et des millions de dollars. Là, ça leur coûte quelques centimes. Donc, ça a un coût. Ça a un coût économique immédiat, c'est-à-dire que nous sommes en train de générer un coût pour OpenAI, mais ce coût est moindre que si nous étions payés pour utiliser ChatGPT. Donc, il y a une transaction économique qui se fait dans ce modèle gratuit. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Steve Jobs sur Facebook, hein, quand il avait dit « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». Nous sommes le produit de ChatGPT actuellement. Nous sommes en train de travailler gracieusement pour OpenAI. Et la valeur que nous en ressortons, c'est à nous de savoir si elle est égale à tout ce que nous donnons. À terme, le but d'OpenAI, c'est de vendre des API, c'est-à-dire des modules technologiques qui vont pouvoir être intégrés dans des solutions beaucoup plus performantes, beaucoup plus verticales, c'est-à-dire moins généralistes et plus professionnelles, plus adaptées à des business models particuliers.
Si je résume, pour l'instant, l'IA ne coûte pas cher aux utilisateurs et aux entreprises qui y ont recours, mais ça pourrait changer.
Alors Stéphanie, on a parlé de l'IA qui pourrait augmenter le PIB de certains pays, de l'IA qui pourrait réduire les coûts de la main-d'œuvre ou augmenter la productivité des salariés et donc augmenter les profits des entreprises. Mais depuis le début, on ne s'est pas mis au niveau des salariés. Est-ce que l'IA va leur apporter quelque chose de positif, comme du confort, un meilleur salaire ou plus de sens au travail? Est-ce que cette technologie va leur offrir un boulot plus intéressant, voire apporter une amélioration de leur niveau de vie?
Alors comme tu le sais, l'économie s'attache à mesurer des indicateurs économiques comme le PIB, la croissance, la productivité. Si on se place du point de vue du salarié, on a forcément envie de mesurer son épanouissement professionnel. On a envie de savoir si l'IA va rendre notre travail plus agréable, plus confortable, nous permettre d'abandonner nos bullshit jobs, ces boulots qui ne servent à rien, pour nous consacrer à des postes qui ont du sens. Le seul indicateur économique qui pourrait se rapprocher de ces notions, c'est celui du bonheur ressenti, à un moment T, qui a été développé par une économiste française, Claudia Sénic. Mais à ma connaissance, elle ne s'est pas encore penchée sur la question de l'IA. Mais pour répondre à ta question, Emmanuel, je me suis d'abord demandé comment les salariés réagissaient face à l'IA. Les différentes études qui ont été faites à ce sujet montrent deux sentiments un peu contradictoires. D'un côté, la peur de perdre son emploi, et de l'autre, la curiosité, la volonté d'être formé. Une étude parue le 16 mai dernier de la licorne française Sapio Research montre qu'un salarié français sur deux redoute de perdre son emploi à cause de l'IA. Mais en même temps, 3 employés sur 4 seraient intéressés par une formation plus poussée pour intégrer l'IA dans leurs tâches quotidiennes. Ian Ferguson a lui particulièrement étudié l'impact de l'IA sur les travailleurs. Il en a tiré 5 profils types, 5 récits possibles d'un salarié face à l'intelligence artificielle. On l'écoute.
Le premier récit, c'est le récit qui est le plus anxiogène, c'est le récit du travailleur remplacé. Donc c'est l'idée selon laquelle à un moment, l'intelligence artificielle arriverait à un tel niveau de maturité qu'une très grande majorité des emplois actuels pourraient être réalisés par des machines et des machines qui embarquent l'intelligence artificielle.
Cette peur, elle est aussi alimentée par les révolutions industrielles précédentes. On a par exemple automatisé le travail agricole, ce qui a supprimé de nombreux emplois dans ce secteur. Mais la conséquence, c'est qu'on a aussi créé énormément de postes dans l'industrie. Ensuite, il y a eu l'automatisation de l'industrie, ce qui a fait baisser drastiquement le nombre d'employés dans le secteur. Mais ces travailleurs se sont reconvertis dans des emplois de service, dans le tertiaire. Que va-t-il se passer avec l'IA? Ian Ferguson.
L'intelligence artificielle vient adresser en grande partie ces emplois de service ou des métiers en, dit en col blanc. Et comme on ne connaît pas bien de quatrième secteur, en tout cas on nous a appris qu'il y en avait 3, eh bien on se demande si on ne va pas maintenant vers la fin du travail. Alors évidemment, c'est une peur très ancienne qui est systématiquement exprimée dès lors qu'il y a une nouvelle étape dans l'automatisation. On connaît l'histoire de Ned Ludd, hein, qui au 19e siècle détruisait des machines Jacquard parce qu'il disait que ça allait détruire leur emploi. Donc il y a eu une grande histoire de briseurs de machines. Et là, sur l'intelligence artificielle, il y a cette peur.
Il explique aussi que cette peur est alimentée par toutes les sociétés qui développent les IA génératives et qui présentent leur outil comme un moyen révolutionnaire de remplacer de la main-d'œuvre qui serait mieux que les travailleurs humains.
Alors là, c'est rien, je suis 100% mieux que toi.
Pour le spécialiste, l'IA peut au contraire apporter beaucoup si au lieu de l'opposition, on serait dans un rapport de collaboration entre l'homme et la machine. Ce serait notamment le cas avec un deuxième récit, la figure du travailleur transformé. Une transformation qui pourrait prendre 2 formes, positive et négative. Bon, on commence par le négatif, le travailleur dominé. C'est celui qui serait dans une situation où on le mettrait sous la conduite de machine. La machine lui dirait ce qu'il a à faire, ce qui n'est évidemment pas valorisant et est plutôt flippant. Une autre figure plus positive, celle-là, c'est celle du travailleur augmenté.
C'est-à-dire que finalement, le système d'IA vient potentialiser des compétences, renforcer la capacité d'action du travailleur, comme le font beaucoup de nos outils. Hein. De la même façon qu'on dit souvent, le marteau rend plus simple le fait d'enfoncer un clou. On peut le faire avec la main, mais c'est au prix de douleur et de beaucoup de temps passé. L'IA peut être un moteur de réduction des efforts, mais peut être aussi un moteur d'augmentation de la performance, hein, atteindre une performance jamais réalisée. Je délègue à la machine des tâches qui ont peu de valeur pour moi ou sur lesquelles je produis peu de valeur, je vais passer plus de temps sur les tâches à forte valeur ajoutée. Il y a la figure d'un travailleur divisé, qui est un scénario où les travailleurs sont polarisés par l'IA. Le processus de polarisation est déjà en cours sous d'autres mécanismes, mais il y aurait finalement petite partie de travailleurs fortement augmentés et une majeure partie de travailleurs fortement dominés. Et donc, le risque, là, n'est pas celui de la disparition du travail, mais de l'appauvrissement du travailleur. C'est-à-dire que finalement, une grande masse se trouve appauvrie par l'IA. Et puis, il existe un dernier récit, c'est celui du travailleur réhumanisé, c'est-à-dire celui du travailleur qui se voit retirer par l'IA les tâches qui font de lui un robot dans le travail, parce que l'IA est toujours meilleure sur des tâches répétitives et ça déplacerait la valeur du travailleur humain vers des tâches sur lequel on pense que ça le rend plus humain. Alors, c'est quoi une tâche plus humaine? C'est très théorique, tout ça, hein, mais c'est plutôt des tâches de créativité. Créativité, ça ne veut pas dire qu'on deviendra tous des artistes, mais c'est adresser des problèmes au travail qui sont un peu uniques, pas encore trouver de solutions générales, hein, celles qui font appel à notre capacité de résolution de problèmes. Mais ce sont aussi des tâches relationnelles sur lesquelles on est très compétent. On sait que des grandes forces du travailleur et des humains en général, c'est l'intelligence collective, c'est notre capacité à tirer parti de nos capacités sociales en tant que groupe et à trouver des solutions ingénieuses par le groupe.
Ces cinq récits, ces cinq modèles devraient cohabiter. Et le but du politique, ça va être de regarder comment on peut favoriser les récits les plus épanouissants pour le travailleur humain. Et pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Pour certains chercheurs, l'IA précarise surtout le travail. Des travaux du digital platform Labor montrent que le seul travail que l'IA générative a créé, pour l'instant, c'est celui d'instructeur d'IA. Un titre un peu pompeux qui consiste à entraîner le chat en corrigeant ou en affinant ses réponses ou en nettoyant ses données. Puisqu'on a vu que le chatbot pouvait avoir des hallucinations, c'est-à-dire des erreurs, parfois assez graves. Ça renvoie à l'enquête du Time de janvier dernier qui montrait que des micro-travailleurs kényans étaient payés une misère pour entraîner ChatGPT et d'autres systèmes de chat conversationnels. Ce qui fait dire à certains, quand on leur demande à qui l'IA va profiter, que cette technologie profitera à quelques cols blancs, précarisera beaucoup d'emplois et permettra surtout aux actionnaires de gagner plus d'argent, puisqu'au final, peu de travailleurs trouveraient dans l'IA une source d'épanouissement.
Et qui seraient les grands gagnants de l'IA?
Les entreprises qui la développent. Et à ce sujet, la présidente de la Federal Trade Chamber, l'autorité en charge de la concurrence et de la protection des consommateurs aux États-Unis, a estimé début mai qu'il ne fallait pas commettre avec l'IA les mêmes erreurs que celles commises pour Internet, c'est-à-dire laisser quelques entreprises former un oligopole et devenir plus puissantes que les États sans le moindre partage de la richesse produite. Mais c'est exactement le même schéma qui se profile. Ted Chiang, un informaticien et écrivain américain, va même plus loin dans un article du New Yorker. Pour lui, l'IA va permettre de réduire drastiquement les coûts de main-d'œuvre des entreprises et cette économie profitera surtout à qui? Aux actionnaires de ces sociétés et pas du tout aux travailleurs, ce qui va accentuer la concentration du capital dans les mains de quelques sociétés. Pourtant, est-ce que la technologie et le progrès ne devraient pas entraîner une vie meilleure pour les personnes qui travaillent? Plus de confort, moins de labeur, plus de créativité? Est-ce que la technologie de l'IA ne pourrait pas nous apporter un peu de justice économique? Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, c'est pas gagné.
Merci Stéphanie. Je comprends qu'il y a énormément de promesses et d'attentes qui entourent l'IA. Reste à savoir comment les entreprises vont réellement l'adopter et quel impact cela aura sur l'économie. Et ça, il faudra attendre les prochains mois pour le voir. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify. Ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par moi, Stéphanie Bascou, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Matteo Gillet et Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Essem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Chargée de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Acmi.